accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes. C'est un domaine où malheureusement l'offre est loin de répondre à la demande. En Allemagne, les dons d'organes se font de plus en plus rares. Une évolution inverse de celle de la France où selon l'agence de biomédecine, les dons d'organes ont progressé de 17% entre 2011 et 2016. La tendance devrait être renforcée par une nouvelle loi entrée en vigueur en janvier 2017 qui limite le pouvoir des proches. En France, un tiers des refus serait lié en effet à l'entourage. Alors pourquoi dans l'Allemagne voisine observe-t-on le phénomène inverse? Élément de réponse avec Déborah Berlioz.
En Allemagne, seules 800 personnes ont donné leurs organes pour des transplantations l'année dernière. En 2010, ils étaient encore 1300. Il faut dire qu'un scandale a largement entamé la confiance des Allemands dans le système de dons d'organes. En 2012, un médecin a été accusé d'avoir falsifié les données de ses patients pour leur permettre d'obtenir une greffe plus rapidement. Malgré tout, 81% des Allemands continuent d'être favorables aux dons d'organes. Les raisons de la pénurie sont davantage à chercher du côté de la législation. En Allemagne, il faut entreprendre une démarche très formelle pour donner ses organes. C'est le consentement explicite. En France, à l'inverse, le don est implicite depuis 40 ans. La nuance peut paraître subtile, mais les conséquences sont réelles. En 2016, presque 5900 organes ont été greffés en France contre 3000 en Allemagne. La Fondation allemande pour le don d'organes pointe également du doigt la mauvaise volonté de certaines cliniques. Prélever les organes nécessite du personnel, une salle d'opération, et coûte plus cher que de simplement appeler les pompes funèbres. Résultat, sur les 1260 hôpitaux habilités à prélever des organes, 165 n'en ont fourni aucun l'année dernière. La Fondation appelle donc le gouvernement à prendre des mesures car la situation est critique. 10 000 personnes sont en attente d'un greffon et l'année dernière, 937 personnes sont décédées faute d'une transplantation.
C'est une autre pénurie qui frappe Sarajevo 20 ans après la fin de la guerre. Les montagnes de Bosnie-Herzégovine sont riches de rivières et de lacs. Pourtant, la capitale subit depuis des années des coupures épisodiques d'eau potable, provoquant la colère des habitants. En cause, des canalisations vétustes et la corruption généralisée de l'administration de la ville, Laurent Gélin.
Depuis quelques années, les coupures d'eau sont régulières à Sarajevo, surtout la nuit. Mais cet automne, elles se sont aussi généralisées dans la journée. La qualité de l'eau semble également s'être détériorée, la diminution de la pression entraînant l'arrivée dans les éviers de terre, de bouts de métaux et de déchets accumulés dans les canalisations. De fait, les 1100 km du réseau, qui datent des années 1970, sont en très mauvais état, notamment depuis la guerre, et personne ne semble avoir envisagé de les remettre en état. Selon un rapport officiel du canton de Sarajevo, 100 millions de mètres cubes d'eau sont acheminés chaque année dans la capitale bosnienne, mais 75% de ce total est perdu en raison du délabrement des canalisations. Toujours selon ces données, 20 000 branchements illégaux auraient également été repérés pour alimenter des restaurants ou des stations de lavage auto, une situation catastrophique dont ne semble pas se préoccuper l'agence publique de l'eau, contrôlée depuis plus de 20 ans par des membres du Parti d'Action Démocratique, le SDA, au pouvoir dans la capitale. Les citoyens dénoncent par exemple une absence totale de planification des travaux et une corruption généralisée. Alors pour faire face à la grogne populaire, le président du canton, Elmedin Konaković, a présenté des mesures censées améliorer la situation, des contrôles pour lutter contre les raccordements abusifs et les mauvais payeurs, de nouveaux chantiers et une augmentation du budget de l'entreprise. Peu de chance cependant que les habitants de Sarajevo se séparent des bassines qu'ils utilisent pour stocker l'eau dans leurs appartements.
Eux transforment l'eau en vin. Deux vignerons qui viennent d'obtenir une nouvelle appellation d'origine protégée. Particularité, l'un est belge, l'autre néerlandais. Et l'appellation, c'est une première, ignore la frontière. Le Maasvallei Limburg devient ainsi la première AOP transfrontalière. Alice de Baptiste est allée à la découverte de ce cépage cultivé sur les deux versants de la Meuse.
Nous sommes sur les rives belges de la Meuse. C'est ici que Carol Henkens a planté ses vignes. Son voisin néerlandais nous accompagne. Et si ces deux vignerons ont décidé de faire pousser du pinot gris, blanc, noir et du chardonnay dans la région, ce n'est pas un hasard. C'est sous nos pieds que la magie opère. Harry nous explique.
La Meuse a laissé de très bons et importants sédiments autour de son bassin. Cette région est reconnue pour son gravier. C'est de celle-ci dont il s'agit.
Les pierres que Karel vient de faire ricocher dans sa main forment une couche d'une épaisseur de 5 à 15 mètres. Au-dessus de ces galets, du limon s'est déposé, ce qui a transformé la Maas-Vallée en une région propice à l'agriculture. Conscient du caractère très particulier des lieux donc, Harry et Karel ont travaillé pendant 8 ans sur ce projet d'AOP. Un travail de longue haleine. Le cahier des charges européen est très exigeant.
Il faut expliquer comment le sol a une répercussion sur la qualité du vin. Ça, c'est très important. La zone aussi, elle s'étend sur 50 km et 3 km de long. C'est vraiment très délimité. De telle route à telle route. Oui, là, nous avons été très stricts.
Il faut donc prouver qu'il y a un lien clair entre le terroir et le produit. Ici, ce sont ces petits graviers qui donnent un certain goût au vin. Mais l'AOP ne se limite pas à des critères géographiques, insiste Harry.
Cette AOP n'est pas seulement typique de la région. Il y a d'autres caractéristiques. Des règlements ont été établis concernant la vinification. Les types de vin, la limitation du rendement. C'est très important pour la qualité et la protection du produit.
Les viticulteurs ont également dû expliquer en quoi le climat de la vallée a une répercussion sur le vin qu'ils produisent. Ce seraient en fait les nuits fraîches d'automne que l'on retrouve ici qui permettent aux acides de se décomposer progressivement dans les raisins. Les arômes typiques de la région deviennent alors puissants en bouche. C'est tout ce savoir-faire que l'AOP récompense aujourd'hui. Pour Karel, c'est une belle reconnaissance, mais c'est aussi une promesse pour le futur.
Ce n'est pas uniquement une question d'identité, mais un label de qualité pour des vignerons débutants qui, dans le futur, voudront aussi se lancer dans une production de vin dans la région.
Une appellation apporte aussi son vent de notoriété qui pourrait augmenter les ventes. Karel Henkens produit chaque année 70 000 bouteilles sur 10 hectares. Le vin passe d'abord quelques semaines dans de grandes cuves en inox, puis est transféré dans des fûts en bois pour finalement arriver dans notre verre.
De Pinot Gris.
Ok, merci.
Je moet wat lucht mee naar binnen zuigen.
Tu dois aspirer de l'air à l'intérieur de la bouche et le goût explose. Viennent alors des notes subtiles, un peu acides. On appelle ça en anglais un crispy feeling sur la langue. Et cela vient typiquement des cailloux, des pierres près de la Meuse.
C'est donc cette combinaison de sol calcaire, de température particulière de la vallée et de vinification qui fait du vin Maas-Vallée-Lingburg un vin à part entière. Les viticulteurs devront respecter cette recette pour chaque millésime. C'est une exigence de l'Union européenne. Le vin devra être approuvé chaque année par un jury pour porter son étiquette AOP. Livre.
Allez, on s'évade tout au nord de l'Europe avec un voyage photographique en Islande. 4 saisons en Islande, c'est le titre de l'ouvrage signé Olivier Joly. Près de 300 pages de textes et de photos pour mieux appréhender ce pays qui connaît un afflux sans précédent de touristes. Alors pourquoi cette popularité soudaine? C'est la première question que Catherine Roland a posée à Olivier Joly.
Il y a eu une conjonction de phénomènes. Je pense que le premier, c'est la crise financière de 2008. Qui a été un coup très très dur pour les Islandais, qui a fait baisser très fort la couronne islandaise et qui a rendu le pays plus accessible financièrement pour les touristes. C'est la première chose. La deuxième et la plus importante, je pense, c'est l'éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010. Tout le monde en a entendu parler à cause des perturbations aériennes. Tout le monde a vu les images de cette éruption. Il se trouve que ce volcan est le plus accessible. On pouvait même y aller quasiment devant le cratère en 4x4. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que les compagnies aériennes, notamment la compagnie nationale islandaise, proposent aux voyageurs de s'arrêter en Islande sans surcoût sur un voyage transatlantique. Donc les gens vont de Paris à New York, ils s'arrêtent 3 jours en Islande. Ça a fait venir énormément de populations, notamment nord-américaines. Et ben ça a fait un effet de bouche à oreille. Instagram, je pense, a fini de populariser l'Islande parce que tout le monde s'est rendu compte qu'on pouvait faire de magnifiques photos en Islande et c'est devenu, je trouve ça un peu dommage, mais c'est devenu la capitale européenne du selfie.
L'attraction de l'Islande, n'est-ce pas due aussi à cette vague écologiste, cette prise de conscience aussi du danger du réchauffement climatique et que c'est encore en Europe un dernier endroit sauvage?
Effectivement, l'Islande est globalement une terre totalement vierge où la nature est omniprésente et extrêmement forte. Donc il y a ce phénomène-là. Et il y en a un autre qui est peut-être plus inconscient, c'est que quand on se promène en Islande, tous les sens sont en éveil. L'œil est attiré par toutes les beautés environnantes, mais il n'y a pas que l'œil, il y a aussi le toucher, il y a aussi la caresse du vent, il y a aussi le bruit. C'est-à-dire que même quand on est dans le désert, il y a le chant des oiseaux. On ne les voit pas, mais on les entend. On se sent plus vivant qu'ailleurs en Islande, parce que tous les sens sont sollicités.
On entend que vous êtes un passionné. Justement, pour vous, quelle est la meilleure saison? C'est l'automne, vous avez l'air de le dire.
Oui, je sous-entends que ma saison préférée, c'est l'automne, le mois de septembre, puisque toutes les routes de l'intérieur de l'île sont encore ouvertes. Vous savez que ce qu'on appelle les Highlands, non pas les Highlands d'Écosse, mais les Highlands d'Islande, qui sont une zone extrêmement à la fois montagneuse et désertique, ces Highlands se sont fermés de la première neige, en général autour du début octobre, jusqu'au dégel complet. C'est-à-dire, elle rouvre en général en juillet. Donc, pour profiter de ces merveilles naturelles, il faut voyager entre juillet et octobre. Et pour éviter le gros des voyageurs, il vaut mieux venir un petit peu après les vacances d'été, c'est-à-dire en septembre. Les aurores boréales reviennent en septembre, ce qui ajoute à la magie des lieux. Et on retrouve en septembre un isolement, une forme de solitude sans laquelle l'Islande n'est pas vraiment l'Islande.
Au moment de l'automne aussi, il y a un moment très emblématique de la vie locale. On appelle ça le retir. Je ne sais pas exactement
vous
comment ça se prononce.
Vous le prononcez très bien.
Voilà. Donc c'est la transhumance automnale des moutons, une très ancienne tradition. C'est même suivi à la télévision. Un peu étrange, non?
Oui, c'est un moment extrêmement fort des Islandais, en tout cas de tous les Islandais du monde rural. C'est une coutume qui a des siècles d'existence. Début juillet, tous les fermiers relâchent leurs bêtes dans les hautes terres, puisque l'herbe est un peu plus grasse, elles peuvent grandir et s'épanouir pendant quelques mois loin de la ferme, et ils doivent aller les rechercher au moment où juste avant les premières neiges. Curieusement, c'est un calendrier lunaire très ancien qui détermine la date à laquelle ils vont les chercher, c'est autour du 20 septembre. Et là, dans toutes les régions de l'île, les fermiers quittent leurs exploitations qui sont en général sur la bande côtière et montent dans les montagnes avec des chevaux, énormément de chevaux, puisqu'il faut compter pas loin d'une dizaine de chevaux par cavalier, puisqu'ils partent pour une semaine, et que c'est une tâche exténuante pour les bêtes. Et ils vont dans les moindres vallées, les moindres sommets, pour aller chercher toutes les bêtes. Ils ont un homme qui s'appelle The King of the Mountains, le roi des montagnes. C'est un nom un peu désuet, mais c'est quelqu'un qui a le respect de tout le monde et qui décide comment s'organisent les équipes. Il envoie les débutants avec les gens plus expérimentés, il envoie les jeunes très bons marcheurs sur les sommets tout en haut. Et chacun ramène ses bêtes, qui sont ensuite mis dans des petites carrioles et amenés vers les exploitations.
Et donc tout ça, c'est suivi par un programme télé ?
Non, on s'y intéresse chaque année. Il y a des petits sujets là-dessus. Il y a un programme télé, en revanche, qui a suivi quelque chose qui est un petit peu différent, mais c'est l'agnellage. C'est-à-dire que pendant une nuit entière, la télévision a montré dans différentes fermes, avec des webcams, les agneaux venir au monde. Et ça a passionné les Islandais. Ça a fait une des meilleures audiences de l'année. Pour prouver à quel point les gens sont encore très liés à ce qui a fait depuis toujours la vie et l'économie de ce pays. Pour en revenir au Yétir, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui a connu un regain de popularité après la crise financière. Parce que les Islandais qui s'était un petit peu laissé aller. Il vivait dans une espèce de bulle d'illusion. Il prenait un avion pour aller à Glasgow faire la fête, comme vous prenez votre voiture pour sortir boire un verre avec des amis. Et ben, il s'est rendu compte que finalement tout ça était un peu illusoire, un peu superficiel. Et ils sont revenus à des choses beaucoup plus anciennes. Et on a vu affluer les volontaires autour du Rietir, c'est-à-dire que les éleveurs demandent à quelques bergers professionnels de venir, mais aussi à tous les volontaires qui veulent apporter leur envie d'aider et leur envie de se retrouver dans cet environnement sauvage, là où s'est créé finalement l'âme de l'Islande.
Olivier Joly, auteur de 4 saisons en Islande aux éditions Favre, sélection de photos à retrouver sur notre page Facebook.
And now the moment we've been waiting for is here. Music. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Direction Amsterdam aujourd'hui pour y faire la connaissance non pas d'un Hollandais mais d'un jeune artiste allemand.
Eh oui, Till Hoormann, 27 années au compteur, dont une bonne douzaine à jouer de la musique, d'abord avec ses amis, au sein de différents groupes punk dans le petit village du nord de l'Allemagne où il a grandi, et puis en solitaire quand les amis en question quittent le village. Lui-même suit le mouvement en 2012 et s'installe à Amsterdam où il poursuit ses expériences musicales sous le nom de Delage, dans un registre plus rêveur où le jeune homme revendique autant l'influence des musiques psychédéliques que du cinéma de Werner Herzog. Son premier album s'intitule Lover Boy Beat Face et décline 8 chansons pop minimalistes à la séduction lente mais sûre, où l'amour est ruminé d'une voix monocorde.
Why won't you call me today? Oh, please, please call me away. Why won't you call me today? Oh, please, please call me away. When night is coming to town, I found it hard.
Extrait du dernier album de Till Hoormann, la proposition musicale de Vincent Théval. On se retrouve demain pour une nouvelle série de rediffusions d'Accent d'Europe.